France Culture.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Nous parlons de science et d'éthique cette semaine dans une série intitulée « La science et ses mauvaises consciences ». Aujourd'hui, une recherche à soi, un défi pour les femmes scientifiques. La place des femmes dans les sciences est une des mauvaises consciences de la science. Il y a de quoi ? La physicienne, actrice et dramaturge Elisabeth Bouchaud a écrit trois pièces qu'on a pu voir cet hiver au théâtre de la Reine Blanche, montrant trois physiciennes du XXe siècle d'un niveau exceptionnel, Lise Meitner, Rosalind Franklin et Jocelyn Bell, dont les travaux ont été pillés par des hommes, ceux-ci n'ayant eu aucun scrupule à les laisser dans l'ombre au moment de publier puis de recevoir, eux, des prix Nobel. Notre époque semble enfin prendre la mesure de ce désastre moral. Le film « Les figures de l'ombre » réalisé en 2017 par Théodore Melfi souligne l'importance dans les programmes de la NASA des calculs de trois femmes afro-américaines, Katherine Johnson, Dorothy Vaughan et Mary Jackson. On commence à comprendre aussi toutes les raisons qui, dans les sciences, les technologies, l'ingénierie et les mathématiques, font qu'à niveau initial égal, les femmes décrochent plus vite que les hommes et, quand elles tiennent bon, atteignent des positions moins élevées. Apparemment, dès la classe de CP, quelque chose vient miner la confiance des petites filles dans leurs aptitudes scientifiques. Nous parlons de tout cela ce matin. Bonjour Elisabeth Bouchaud.
Bonjour Géraldine Mühlmann.
Je suis vraiment ravie de vous accueillir. Vous êtes diplômée de l'École centrale de Paris, docteur en physique. Vous avez publié une centaine d'articles scientifiques, encadré une quinzaine de thèses, enseigné aussi aux États-Unis et en Norvège. Mais vous êtes également comédienne et vous avez écrit 11 pièces, dont une série que je viens d'évoquer sur des femmes scientifiques, série intitulée Les Fabuleuses et montée au théâtre de la Reine Blanche. Cette trilogie vous vaut une participation dans quelques jours au Festival d'Avignon. Vous nous parlerez ce matin de toutes ces femmes flouées et vous jouerez pour nous en direct un passage de votre pièce sur la physicienne Lise Meitner avec un autre comédien, lui aussi dans notre studio, que je salue. Bonjour et bienvenue, Imer Kutlovski.
Bonjour.
Kutlovski, pardon.
Très bien.
Bonjour Marie-Frédérique Pellegrin.
Bonjour Géraldine Mühlmann.
Alors vous êtes maître de conf à l'Université de Lyon, mais vous venez d'être nommée professeure de philosophie à l'Université Grenoble-Alpes. Vous êtes spécialiste du XVIIe siècle, de Descartes en particulier, et des femmes philosophes de cette période, qui souvent avaient aussi de grandes compétences scientifiques. Vous nous en parlerez en évoquant la reconnaissance qu'elles étaient susceptibles d'avoir à cette époque. Enfin, bonjour Pauline Martineau.
Bonjour Géraldine.
Vous êtes médecin et docteur en neurosciences de l'Université Paris-Santé, spécialiste de santé publique. Vous connaissez très bien les travaux actuels sur les écarts entre filles et garçons en mathématiques qui apparaissent, semble-t-il, dès l'école primaire. Vous nous expliquerez. D'ailleurs, eh bien, je vous propose de commencer par là.
Toutes les filles ne le vivent pas comme ça. Pour preuve, la très étonnante étude de ce chercheur en psychologie de la connaissance. Prenez un groupe d'élèves, demandez-leur de mémoriser et reproduire ce schéma. Si vous leur dites avant qu'il s'agit d'un exercice de géométrie, donc de maths, les garçons en rouge réussissent beaucoup mieux que les filles en jaune. Si vous leur dites que c'est du dessin, là les filles réussissent mieux, comme si elles s'auto-censuraient.
À compétences égales, les filles se sous-évaluent par rapport aux garçons. Et ça, c'est l'action, la signature en quelque sorte de l'intervention d'un stéréotype qui prévaut dans nos sociétés et qui nous dit que, en moyenne, en général, les filles et les femmes sont moins performantes en sciences, en maths, par exemple, que ne le sont les garçons et les hommes.
Or, côté cerveau, tout va bien. Filles et garçons ont autant de bosses des maths les uns que les autres, même si c'est avec d'infimes variations, sans conséquences. Selon une étude américaine, les parents parlent deux fois plus de chiffres et de nombres à leurs petits garçons qu'à leurs petites filles, déjà avant l'âge de 2 ans.
Vous venez d'entendre une archive de l'INA, l'extrait d'un reportage dans le 20h de France 2 du 10 mars 2012, reportage sur les femmes et les mathématiques. Que se passe-t-il à l'école pour que, lorsque on dit aux filles c'est du dessin, elles s'en tirent très bien, et quand on leur dit c'est de la géométrie, tout d'un coup, elles se retrouvent inhibées. Pauline Martineau.
Alors, il n'y a pas une seule réponse possible à cette question. En fait, l'entrée en école primaire marque la première fois où les petites filles sont exposées à un enseignement des mathématiques qui est formel, qui est très carré, avec toute la pression que cela englobe. C'est la première fois que les petites filles sont aussi face à des exercices où on leur demande de faire plus vite, chronométrer, ou de tester des choses, de faire beaucoup d'erreurs.
C'est un inconscient des enseignants qui est en cause ?
C'est un ensemble d'éléments qui font qu'on a à la fois mesuré que les enfants entre eux agissent là-dessus, puisque lorsqu'on a une petite fille qui est première de la classe, par rapport aux autres classes où les garçons sont premiers de la classe, lorsque c'est une fille qui est première de la classe, et bien toutes les filles de la classe vont être beaucoup plus performantes en mathématiques par rapport aux classes où c'est un petit garçon qui est premier de la classe.
C'est ce que vous appelez les rôles modèles.
Tout à fait.
Mais ces rôles modèles suggéreraient a priori que dans des classes non mixtes, où il n'y aurait que des filles, donc par définition la première de la classe serait une fille, les stéréotypes plus ou moins conscients, les contraintes sociologiques qui pèsent sur les petites filles seraient levées.
En tout cas, c'est une des réponses. On voit que ça améliore et que ça fait augmenter le niveau des petites filles, mais ce n'est pas la seule. Et quelque chose qui est beaucoup plus marquant dans les écoles qui sont, ou dans les classes qui sont unisexes, c'est que c'est souvent en fait des écoles qui sont d'une catégorie socio-professionnelle plus élevée. Ça, c'est la catégorie dans laquelle on a mesuré la plus forte marque de stéréotypes de genre.
Donc, vous voulez dire qu'aujourd'hui, ça n'existe plus que dans le privé, les écoles unisexes, donc des écoles payantes, parce que longtemps, ça a été le cas à l'école publique.
Tout à fait. Là, en fait, ce qu'on a mesuré, c'est que tous les petits garçons et les petites filles rentrent en CP avec un niveau égal en mathématiques, sauf dans les milieux très favorisés.
Alors, on va y venir parce que ça, c'est une des choses qui m'a beaucoup étonnée. Donc, je rappelle que vous avez analysé les résultats du programme dit EvalAide. C'est un dispositif du Conseil scientifique de l'éducation nationale et de la Direction de l'évaluation de la prospective et de la performance. C'est une évaluation sur 4 années. On a soumis 46 tests cognitifs portant sur le langage et les maths à tous les élèves, à leur entrée au CP, puis 4 mois plus tard, et enfin à leur entrée au CE1. Donc ce que vous dites, c'est que, d'une part, ce que vous comprenez de cette étude, d'une part, les stéréotypes viennent de l'école et pas de la maison, et quand ils viennent un peu de la maison, c'est plus fort encore dans les classes élevées. Je vous écoute, parce que là, je suis complètement abasourdie. Enfin, je suis étonnée, je suis étonnée, et je voudrais comprendre.
En fait, on voit la manifestation de ces écarts en faveur des petits garçons dès 4 mois d'école au CP, d'exposition d'école au CP. Ils rentrent en CP. Tous les petits garçons et les petites filles ont exactement les mêmes résultats en mathématiques, sauf dans les milieux très favorisés où les garçons ont une légère avance sur les petites filles. Et ensuite, lorsqu'on avance dans le temps, les garçons prennent une large avance. Ce qui est remarquable dans cette étude sur 4 années, c'est qu'on a eu l'année Covid. L'année Covid, c'est l'année où les enfants ont passé 2 mois et demi de plus à faire l'école à la maison par rapport aux autres années.
Oui.
Et donc, on a pu comparer cette année-ci par rapport aux autres années. Et dans cette année-là, on a remarqué que les filles avaient un meilleur niveau en mathématiques par rapport aux autres années lorsqu'elles sont restées
J'entends.
À la maison.
Ça suffit à dire que la maison protège des inégalités plus que l'école en live, si j'ose dire, en présentiel, comme on dit en très mauvais français aussi, c'est la maison là qui a joué un rôle protecteur.
Si on identifie la majorité des éléments qui, mis tous ensemble, font que les petites filles perdent confiance en elles en mathématiques, le fait d'être chez soi et du coup de ne pas avoir la pression des collègues dans la même classe et potentiellement de ne pas avoir la pression aussi, les stéréotypes projetés des enseignants, protège un peu plus les petites filles que lorsqu'elles sont dans le cercle scolaire. En revanche, de 0 à 6 ans, les petites filles et les petits garçons sont chez eux, à la maison, en famille. Et là, il y a aussi une présence des stéréotypes, comme quoi les petites filles ne sont pas faites pour faire des maths, comme quoi les petites filles ne doivent pas prendre beaucoup de risques de faire des erreurs et de ne pas relever des défis.
Et cette pensée-là, ou cet inconscient-là, il est plus fort dans les classes favorisées que dans les classes modestes.
Tout à fait.
Les niveaux socio-professionnels plus bas. Alors, expliquez-nous.
Ce qui m'a étonnée aussi, mais en fait, on le retrouve dans d'autres pays aussi. Ça a été mesuré en Uruguay, au Brésil, aux États-Unis, en Chine. Et donc, ce qui paraît être l'hypothèse la plus probable, nous, on n'a pas pu la tester dans nos études, on a juste constaté. Mais l'hypothèse la plus probable, c'est que dans ces milieux-là, il y aurait des stéréotypes beaucoup plus marqués, comme quoi les hommes sont faits pour faire des maths, des sciences, et prendre des décisions et être audacieux, alors que les petites filles sont plutôt parcours littéraire, beaucoup plus douces, et on leur demande de prendre moins de risques.
Elisabeth Bouchaud, vous êtes physicienne, donc vous allez nous parler un peu de vous, mais puisque vous avez mis en scène trois physiciennes du XXe siècle extraordinaires, je crois quand même qu'elles venaient de milieux plutôt favorisés.
Oui, elles venaient de milieux plutôt favorisés. Alors la quatrième et la cinquième viendront de milieux moins favorisés, puisque la quatrième sera Marthe Gauthier, qui est une fille d'agriculteur, qui va commencer à faire de la médecine à Paris en 1942, et elle n'est pas une fille d'eux, et elle va avoir d'autant plus de mal à se faire une place dans la médecine.
Et qui sera la cinquième ?
La cinquième sera Cataline Carico, prix Nobel de médecine en 2023. C'est une biochimiste spécialiste de l'ARN messager et qui a joué un rôle déterminant dans la fabrication du vaccin contre le Covid-19.
Nous allons entrer dans le détail dans cette émission, c'est pour ça que maintenant je passe un peu sur elle. Mais nous allons parler précisément de Lise Meitner, de Jocelyn Bell et de Rosalind Franklin, qui font l'objet de trois pièces que vous avez écrites et qui ont été montées. Nous aurons même une lecture. Mais dans votre vie, je voudrais savoir, Elisabeth Bouchaud, d'abord, c'est vrai que c'est difficile, je conçois, de remarquer des stéréotypes, puisque souvent, ils adviennent inconsciemment chez ceux qui les perpétuent, et ils sont reçus aussi souvent inconsciemment par celles qui les subissent. Néanmoins, avez-vous remarqué des choses qui vous mettaient des bâtons dans les roues comme femme physicienne, et si oui, à quel moment de votre itinéraire ?
Alors, tant que j'étais une étudiante en doctorat, tout se passait bien. Je n'ai jamais ressenti d'injustice.
Et avant, plus à l'école primaire, secondaire, puisque c'est de ça que nous parle Pauline.
Moi, j'ai fait toutes mes études jusqu'à la terminale dans un environnement uniquement féminin. C'était non mixte à mon époque.
Oui. Donc. Un petit sujet là quand même, hein. Je ne veux pas dire Pauline Martineau, mais cette réflexion revient, de savoir si malgré ce que vous avez dit, enfin on a bien entendu, ça, il ne faudrait pas revenir à de la non-mixité.
C'est en effet une question qui est très intéressante, et je sais qu'il y a des mathématiciens qui nous disent que la catastrophe en mathématiques a été la mixité des écoles normales supérieures, par exemple. Martin Handler, Nicole El-Karoui, avec lesquels j'ai eu la chance de discuter, nous disent ça. Je connais aussi un professeur de mathématiques formidable qui s'appelle Mohamed Nassiri, qui fait des choses en non-mixité. En particulier, il a amené ses élèves filles, donc, au théâtre, voir l'affaire Rosalind Franklin. Et il est persuadé qu'il faut faire des choses en non-mixité pour aider véritablement les filles à progresser.
Bon, donc. Et après le doctorat, vous avez évoqué votre doctorat, au moment des postes.
Alors, au moment des postes.
Des publications.
Au moment des postes, ça a été très différent. Et là, ça a été de plus en plus difficile. C'est-à-dire que accepter qu'une femme soit chef de service, moi j'étais au commissariat à l'énergie atomique. J'ai fait deux mandats, donc je suis restée pendant 8 ans chef d'un service au CEA. Et là, j'ai eu beaucoup plus de mal. C'est-à-dire que c'était beaucoup moins acceptable qu'une femme soit chef.
Alors ça, évidemment, c'est en dehors de votre étude, Pauline Martineau. Mais vous pensez que ça vient de loin ? C'est-à-dire que ça vient de l'enfance. C'est de là que des choses se mettent en place qui explosent, si je puis dire, dans des carrières ultérieurement. Mais au fond, inconsciemment, ça fait longtemps dans l'histoire des individus qu'il s'établit le fait que les femmes sont moins faites pour la science de haut niveau que les garçons.
Donc votre question, pour être sûr que...
J'aurais m'assurer que pour vous, c'est quand même dans l'enfance que ça se joue. Même si ça explose plus tard. C'est ça que je voudrais savoir.
Ce qu'on a identifié, oui. C'est que c'est d'une manière globale, il y a à la fois une perte de confiance en soi vis-à-vis des mathématiques chez les petites filles, une surassurance qui est prise par les petits garçons, alors même que leurs cerveaux sont identiques à la naissance. On est tous les nourrissons, les petits garçons et les petites filles, complètement égaux par ailleurs. On a ce socle du sens des nombres. On a exactement ces mêmes compétences. Par contre, on est façonné dès tout petit par le fait qu'on intègre des préjugés chacun et chacune. Et donc, on va interagir différemment avec ses enfants. Ça va certainement se manifester plus tard. Et moi aussi, en tant que femme scientifique, j'ai eu pas mal d'obstacles à différents niveaux.
Oui.
Et ça, à chaque fois, par des choses qui étaient non objectives. C'était vraiment des « tu n'es pas faite pour faire ça », mais sans justification.
Je vous propose quand même qu'on soit clair sur les faits. Un neurologue voit tout de suite sur l'IRM s'il a affaire à une femme ou à un garçon. Les cerveaux ne sont pas identiques. Et heureusement, et c'est bien normal, puisque nous avons des fonctions biologiques qui ne sont pas les mêmes. Ajoutons même que la taille n'est pas tout à fait la même. Mais nous savons que la taille ne compte pas. Einstein n'avait pas un cerveau plus grand que les autres hommes. Moi, je crois que c'est important de dire les faits. Simplement, la question des performances du cerveau n'a rien à voir, c'est pas ça la vérité, avec la taille, la forme, etc. Est-ce qu'il ne faut pas juste dire les choses clairement? Parce qu'un jour, moi j'ai dit, voilà, les cerveaux sont les mêmes, et il y a un neurologue qui m'a dit, non, ils ne sont pas les mêmes. Mais travaillons avec cette factualité et voyons ce qu'on peut en tirer.
J'irai même un peu plus loin.
Pauline
en fait,
Martin.
Personne n'a le même cerveau, même deux jumeaux monozygotes n'ont pas le même cerveau. Homme, femme, peu importe, en fait, chaque individu a un cerveau unique. On ne peut pas faire de différence. Par contre, en termes de compétences et de socle du sens des nombres, nous l'avons tous à la naissance. Sauf ceux qui ont des lésions cérébrales, sauf ceux qui ont des pathologies. Mais sinon, il n'y a aucune différence entre petit garçon et petite fille, dès la naissance.
Très intéressant. Marie-Frédérique Palgrin, je ne vous ai pas encore interrogée, mais nous allons parler du XVIIe siècle dont vous êtes la spécialiste. Alors d'abord, il y a une particularité au XVIIe siècle, qui est que philosophe, savant, scientifique, tout ça, c'était un peu le même monde. Est-ce que je simplifie le problème, là, ou l'enjeu ?
Non, c'est exactement ça. Il y a une relative indétermination de ce qu'on appelle science au XVIIe siècle. Et il faut en tenir compte dans notre débat, parce qu'effectivement, la jurisprudence, le droit, la grammaire, ce sont des sciences. Hein, donc, effectivement, le terme est plus indécis. Mais ça n'empêche pas qu'au sens où nous entendons la science, c'est-à-dire d'abord les sciences exactes, il y a des femmes qui participent à cela et qui font de ce type de science-là. Donc pour le coup, on l'observe statistiquement et qualitativement, quantitativement et qualitativement. Mais en fait, je voulais rebondir
je vous en prie.
Sur ce que vous disiez qui était passionnant sur la problème de la non-mixité qui... Particulièrement en France, d'ailleurs, tous les types de non-mixité sont très, se font l'objet de débats très, très délicats. Et au XVIIe siècle, il y a des auteurs féministes qui pensent la nécessité de la non-mixité. C'est-à-dire que si on veut que les filles puissent développer leur capacité à l'abri des sarcasmes masculins, à l'abri des préjugés, elles doivent s'enseigner les unes aux autres. Et il faut d'abord des écoles non-mixtes avant de pouvoir éventuellement envisager la mixité. Donc c'est un débat, cette question de mixité, de non-mixité, qui est assez ancien. Et je suis vraiment frappée par ce que disent les deux intervenantes précédentes. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un inconfort dans l'école publique, dans la mixité, qui me paraît quand même devoir nous interroger.
En même temps, si on instaure la non-mixité, c'est un aveu d'échec sur le travail contre les stéréotypes.
Exactement.
On préfère se dire on va vaincre les stéréotypes et on n'aura pas besoin.
C'est pour ça que c'est très dérangeant. Ouais. C'est très dérangeant de se dire qu'il vaudrait mieux de la non-mixité après tous les combats qui ont été développés en faveur de la mixité.
Alors au XVIIe siècle, il y a eu des très grandes dames. J'aimerais bien que vous nous les présentiez. Donc Élisabeth de Bohême, Marie de Gournay, Mademoiselle ou Madame de Scudéry. Qui étaient-elles ?
En fait, ça, c'est ce que j'appelle, moi, des savantes. Alors, je ne sais pas si les autres intervenants seront d'accord avec ça. Moi, j'appelle ça des savantes. C'est-à-dire que ce sont des femmes qui veulent faire de la science et qui font de la science, effectivement. Mais avec tout un tas de freins qui sont spécifiques à leur sexe. Que vous preniez une femme de petite noblesse avec pas beaucoup d'argent, comme Marie de Gournay, qui vit de sa plume, une célibataire qui vit de sa plume, c'est très original, et qui doit rendre compte dans des écrits publics de la manière dont elle dépense son propre argent, qu'elle a elle-même gagné à la sueur de sa plume, parce que les gens ricanent, parce qu'elle achète des alambics, parce qu'elle fait des expériences de physique dans sa cuisine, avec sa bonne, et que tout ça la passionne, et que, évidemment, la science, ça demande beaucoup d'argent, hier et aujourd'hui. Donc, elle... passe tout son argent à l'achat de matériel scientifique. Et il y a un écrit très émouvant de Marie de Gournay où carrément elle fait la liste de ses dépenses pour se justifier auprès du grand public, ce qui est quand même inouï.
Incroyable.
Inouï. Et donc elle dit, oui, bien sûr, j'ai dû restreindre mon train de vie. Alors j'ai pas de carrosse, j'ai pas de valet, je m'achète plus de robes, je ne tiens plus mon salon parce que les gens, ils mangeaient tellement mal parce qu'elle gardait tout son argent. Elle gardait tout son argent pour ses alambics. Et donc elle fait carrément des calculs. Et en fait, elle est passionnée par sa science. Et on voit la science à l'époque moderne par ce récit. C'est incroyable. Elle dit, par exemple, bon, entretenir un feu, ça coûte très cher. Il faut tout le temps alimenter le feu. Donc, j'ai un verrier en bas de chez moi. J'ai passé un accord avec lui pour chauffer mes potions, etc. chez lui. Donc, on voit la science se dérouler devant les yeux. Deuxième exemple, Élisabeth de Bohême. Alors, on n'est pas du tout dans la même classe sociale. C'est une princesse, c'est la princesse palatine. Hein. Et donc, elle, sa problématique, c'est comme elle va de cour en cour parce que sa famille a été chassée du trône, donc elle est un peu une princesse en exil. En fait, comment maintenir son niveau d'information scientifique et comment se mêler au concert des débats scientifiques? Eh bien là, au XVIIe siècle, pour ça, il a un grand moyen qui s'appelle les correspondances. Tous les savants forment une sorte de république des lettres et correspondent les uns avec les autres. Et quand on examine cette république des lettres au XVIIe siècle, on voit qu'elle est totalement mixte. Et donc, il y a des femmes qui écrivent à Galilée, il y a des femmes qui écrivent à Descartes et qui correspondent avec eux. Et Élisabeth de Bohême, elle a étudié la surface de la Lune, elle a résolu des problèmes mathématiques irrésolus depuis l'Antiquité. Et c'est une immense savante.
Il y a un point que je vous arrête avant, mademoiselle de Scudéry. Il y a un point que je ne saisis pas bien. J'ai cru comprendre que elle ne pouvait pas publier. Et en même temps, vous venez de dire que, bon, elles écrivaient. Vous avez même dit que madame de Gournay vivait de sa plume. Et les correspondances étaient publiques. Il y a quelque chose qui n'est pas clair pour moi. Qu'est-ce qu'elle ne pouvait pas publier?
En réalité, à l'époque, alors on connaît tous le monde de l'édition autour de cette table, c'est un monde très concurrentiel, mais au XVIIe siècle, c'est beaucoup plus concurrentiel pour les femmes, parce que la plupart des ouvrages, notamment en philosophie, en sciences, se publient à compte d'auteur, donc il faut de l'argent, et les femmes ne disposent pas d'argent. Ça, c'est le premier frein. Et le second frein, c'est évidemment quand c'est signé, un ouvrage scientifique est signé d'un nom féminin, il y a des chances quand même qu'il soit moins acheté et moins considéré que les autres, d'où des tactiques de pseudonymat, d'anonymat, etc. Et donc, en fait, les réseaux de publication sous l'Ancien Régime sont quand même très très difficiles d'accès aux femmes. Elles n'ont pas interdiction de publier, mais de fait, elles publient très peu. Et donc, pour nous, chercheuses et chercheurs sur la période moderne, on doit se plonger dans les archives. Par exemple, Élisabeth de Bohême, elle n'a jamais rien publié. Elle n'a jamais rien publié.
Et Madame de Gournay?
Madame de Gournay, c'est pas du tout la même chose. C'est vraiment un éthos d'écrivaine. Donc, dès qu'elle écrit un petit bout de papier, elle le publie.
Elle le publie, mais pas sous son nom, si?
Si.
D'accord. Pouvait le faire quand même.
Oui.
Bon, mais alors, allez-y sur mademoiselle de Scudéry.
Et le dernier exemple qui peut être aussi intéressant pour nous aujourd'hui, c'est un exemple en sciences naturelles avec Madeleine de Scudéry, qui est connue pour être une précieuse et tenir un salon célèbre. Et en fait, cette femme, c'est dans son salon que les statuts de l'Académie française se sont discutés. Et tous les membres de son salon, en réalité, les philosophes comme les scientifiques, dès que l'Académie française est créée, ils se déportent vers l'Académie française. Il y a qu'elle qui reste dans le salon.
Ah oui.
Il y a qu'elle qui n'est pas... puisque l'Académie française est non mixte. Et on débat de cette mixité dans son salon et on va décider que l'Académie française n'est pas mixte. Et donc, elle va rester dans un lieu semi-privé, tandis que tous les membres masculins de son salon vont devenir académiciens. Ça va être la première génération d'académiciens. Or, cette femme, c'est une scientifique, au sens où moi je l'entends, c'est-à-dire le sens de l'Ancien Régime. Elle reçoit, comme c'est vraiment une précieuse très très connue dans l'Europe entière, elle reçoit d'un ambassadeur deux caméléons. Eh bien, elle commence à les étudier et à écrire des récits pour faire des sciences naturelles. Et elle correspond avec le frère de Charles Perrault, qu'on connaît tous pour ses contes, qui est en charge du Jardin des Plantes, et qui a à sa disposition tout un tas d'animaux exotiques, et elle lui envoie ses comptes rendus, elle discute avec lui de ses observations de sciences naturelles sur ses caméléons. Et à la mort du premier caméléon, elle lui donne, c'est un cadeau précieux, pour qu'il puisse le disséquer et en apprendre plus sur les caméléons. Et c'est vraiment, on a des... Aude Volpillac a édité ses récits sur ces deux caméléons. C'est de la science, au sens du XVIIe siècle.
Et alors, il y a des hommes qui étaient très favorables à tenir les femmes pour égales des hommes en matière scientifique. Il y a un monsieur qui s'appelle François Poulain de la Barre, vous nous direz qui c'est, qui a écrit « De l'égalité des deux sexes » en 1673. Mais dès 1637, par exemple, Descartes, écrivant à Huygens, lui demande l'avis de sa femme sur un sujet scientifique. Bon, je présume que ce n'est pas forcément la norme de se comporter ainsi quand on était un homme. Néanmoins, ma question est la suivante. Est-ce que quelque chose s'est arrêté avec les Lumières, les vraies Lumières, celles du 18e, je sais bien qu'on les fait commencer dès la fin du 17e, mais est-ce que quelque chose s'est tassé et a fini par faire du mal aux femmes? Et si oui, pourquoi? Alors que ça marchait relativement mieux au 17e siècle.
Oui, donc en science, on travaille souvent en couple, sous l'Ancien Régime. Et les femmes, comme la science se fait souvent dans des lieux semi-privés ou privés, dans les cuisines, dans les maisons, dans l'ère domestique, les femmes, en fait, participent de fait énormément à la science. Et donc, en fait, le problème... moi, je pense qu'au XVIIe siècle, il y a un coup d'arrêt qui est porté à la science mixte, qui est très... Alors, d'une part, par l'institutionnalisation de la science dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire à partir du moment où ça se passe dans des académies et que les académies sont non mixtes, de fait, les femmes disparaissent du champ scientifique. Et puis parce que, en fait, vers la fin du XVIIe, on voit qu'on va commencer à distinguer entre les... Et ça fait écho avec ce qu'on disait au début de l'émission. On va commencer à distinguer entre les femmes les sciences qui sont propres aux femmes, qui conviennent aux femmes, et puis les sciences qui ne leur conviennent pas, et c'est-à-dire les sciences beaucoup plus spéculatives. Et il va y avoir comme ça une scission dans ce qui est bien séant pour les femmes et ce qui ne l'est pas en matière de sciences.
Vous voulez dire que ce qu'on appelle parfois la société civile peut avoir de l'avance par rapport aux institutions, et quand on hyper-institutionnalise la science, eh bien cette avance, elle va se perdre.
Oui, parce qu'on fait des choix idéologiques qui correspondent pas aux pratiques scientifiques. Les pratiques scientifiques, je suis la plus mal placée dans ce plateau pour en parler, mais c'est collectif. Et donc, il y a forcément de la mixité. Et donc, le XVIIIe siècle, c'est vraiment la fin c'est vraiment un coup d'arrêt porté à la science mixte dans toutes ses expressions. Et ça correspond également, notons-le, à des changements dans la conception des hommes et des femmes. On parlait du cerveau tout à l'heure. Mais au XVIIe siècle, en fait, Descartes, il a quand même apporté un modèle intéressant du point de vue de féministe, du point de vue donc de la mixité en science, qui était un modèle dans lequel, en réalité, la différence entre les hommes et les femmes, elle se réduisait aux seuls organes sexuels. Et pour tout le reste, ils étaient égaux. Mais à partir du moment où on considère que les hommes et les femmes, c'est radicalement différent, à la Rousseau, c'est-à-dire que vraiment, ils ont des compétences intellectuelles et sensibles différentes, eh bien, du coup, ils ne peuvent pas être en mixité et faire la même chose.
Donc, il n'y a pas que Rousseau, il y a un monsieur qui s'appelle Diderot qui, lui, s'intéressait beaucoup aux femmes, non ? Il dialoguait, il les mettait en scène dans ses dialogues.
Oui, mais on est déjà au XVIIIe siècle. Ouais. C'est-à-dire que quand on dialogue avec une femme, il y a quelque chose de galant, il y a quelque chose d'accueillant, mais on ne les met pas à égalité comme Descartes quand il écrit. Lui, Descartes, quel que soit le sexe de son correspondant, il s'en fiche complètement. On discute maths, on discute physique, quelle que soit la personnalité par ailleurs. Donc ce n'est pas tout à fait pareil. Je ne mettrai pas sur le même plan, vous voyez...
Diderot et Descartes, un siècle avant.
Exactement.
C'est très intéressant. Alors justement, ce sont des institutions auxquelles sont confrontées les trois physiciennes dont vous parlez dans vos... Elisabeth Bouchot, dans vos trois pièces, vous avez incarné l'une d'elles, Lise Meitner. J'aimerais tout simplement que vous nous les présentiez, bon, pas trop longuement, mais qu'on comprenne un peu qui elles sont. Commençons par Lise Meitner.
Lise Meitner est une des premières femmes qui va étudier de la science à l'université de Vienne, en Autriche. Elle suit les cours en particulier de Ludwig Boltzmann, immense physicien.
Au début du XXe siècle.
Oui, de la physique statistique. Et Ludwig Boltzmann se suicide. Alors elle est très, très, très affectée par ce suicide et elle décide de partir de Vienne. Et elle se rend à Berlin pour suivre cette fois l'enseignement de Max Planck. Et c'est là qu'elle rencontre en 1906 un jeune chimiste brillant qui s'appelle Otto Hahn. Et ces deux-là vont travailler ensemble pendant 30 ans. Ils vont en particulier mettre en place des expériences de, dirait-on aujourd'hui, de physique nucléaire, en essayant d'envoyer des neutrons sur des noyaux d'uranium, chose que faisaient aussi les Joliot-Curie à Paris à la même époque et Enrico Fermi à l'époque à Rome, avec son équipe. Et en 1938, Lise Meitner, qui est convertie au protestantisme mais qui est d'origine juive, se trouve coincée à Berlin. Elle n'a plus de papier puisque c'est après l'Anschluss, donc son passeport autrichien ne vaut plus rien. Et les physiciens du monde entier, parce que c'est une star à cette époque-là, on peut dire, vont essayer de l'exfiltrer de Berlin. Alors, ce sont des physiciens hollandais qui, avec l'aide de Otto Hahn, le collaborateur chimiste, vont réussir à l'exfiltrer.
Comment se comporte Otto Hahn pendant la période nazie, puis pendant la période où il est exilé, qui est encore d'ailleurs la période nazie?
Oui, Otto Hahn voit Lise Meitner en cachette, il se donne rendez-vous à Copenhague, ils s'écrivent tout le temps, mais bien sûr il ne peut pas afficher cette amitié. En particulier, quand les résultats des expériences de bombardement de noyaux d'uranium avec des neutrons donnent des résultats qui sont totalement inattendus, puisque ce à quoi on s'attendait, hein, c'est qu'on va coller un neutron sur un noyau, donc on va obtenir un noyau plus gros, un transuranien. Et c'est pas du tout ce qui se passe, on obtient des noyaux plus petits. Pourquoi? C'est Lise Meitner et son neveu Otto Robert Frisch, qui est interprété à la scène par Ymer Kutlowski, qui vont comprendre le mécanisme de la fission nucléaire. Et ça, c'est extraordinaire. Il fallait l'intuition de Lise Meitner pour oser penser ça. Parce que le fait qu'un noyau peut se casser, c'était impensable à l'époque. Aujourd'hui, ça nous paraît banal, bien évidemment, avec le recul que nous avons. Mais à l'époque, c'était totalement révolutionnaire. C'est elle qui comprend ça.
Alors, pour quelle raison Otto Hahn, avec un autre collègue chimiste, Fritz Strassmann, va recevoir lui, c'est-à-dire en fait tous les deux, le prix Nobel de chimie en 1944, et pas elle?
Alors, Strassmann n'est pas associé au prix Nobel.
Ah d'accord.
C'est juste Otto Hahn. C'est totalement injuste. Je trouve ça invraisemblable que en 1944, la guerre n'est pas encore finie, on décerne ce prix Nobel de chimie à quelqu'un qui est resté en Allemagne nazie pendant toute la guerre. Il n'a jamais été nazi lui-même, il n'a pas pris sa carte du parti. Il a aidé Lise Meitner à s'enfuir de Berlin, mais c'est un peu ambigu. Elle devenait gênante pour lui, Lise Meitner. Avoir une juive dans son groupe, c'était pas très très bien vu par les autorités.
Et dans la pièce, très franchement, vous n'en faites pas un personnage totalement glorieux?
Non, c'est pas un personnage glorieux, d'autant plus que après la guerre, il a continué à minimiser la contribution de Lise Meitner aux expériences qui ont permis de voir expérimentalement la fission nucléaire. Il a continué à la minimiser alors que là, il n'y avait plus évidemment aucun danger.
On va parler de Jocelyne Bell et de Rosalind Franklin, mais il y a un thème qui est très important dans toutes vos pièces. Évidemment, il y a l'affront terrible que subissent ces femmes physiciennes. Et puis, dans plusieurs de vos pièces, on aboutit à un point où, une fois que l'affront s'est déroulé, elle pardonne. Cette question vous tourmente, manifestement. Et je crois que c'est peut-être dans la pièce Exil intérieur sur Lise Meitner qu'il y a la scène la plus explicite, puisque vous mettez une objection à ce pardon dans la bouche du neveu de Lise Meitner, qui s'appelle, rappelez-moi comment ?
Otto Robert Frisch.
Et qui est ce matin interprété, mais dans la pièce elle-même évidemment, par Imer Kutlovsky. Alors ce que je vous propose tous les deux, Imer Kutlovsky et Elisabeth Bouchot, puisque vous incarnez dans la pièce, vous interprétez Lise Meitner, c'est de nous lire cette scène où l'enjeu du pardon est central. Nous vous écoutons.
Tu ne te souviens sans doute pas de mon équipe à Berlin ?
Vaguement. Pourquoi ?
Eh bien, deux d'entre eux, qui étaient franchement nazis.
Ah oui, oui, celui qui chantait le Horst Wesselin dans les couloirs et le Essa.
Cela même.
Eh bien ?
Ils m'ont écrit, l'un et l'autre.
Oh, pour vous demander pardon.
Oui. Pas vraiment, non. Mais l'un et l'autre m'ont demandé d'intervenir en leur faveur auprès de la nouvelle direction de l'Institut. Ils se sont tellement compromis avec les nazis, ils risquent leur poste.
Quel cynisme! Et comment justifie-t-il leur demande?
Oh, l'ancien SA dit qu'il était très jeune et enfin très immature à l'époque. Quant à l'autre, j'ai appris récemment qu'il avait essayé d'organiser mon renvoi dès 1934. Mais il a deux enfants de 9 et 3 ans, alors...
Quelle indécence! J'imagine que vous n'avez pas accepté.
Bien sûr que si.
Quoi?
Même si replonger dans tout ça m'a rendu malade. Non, je déteste cette dénazification, cette atmosphère de délation, c'est très dangereux.
Dénazification, pensez-vous. Renazification, oui. Tous ceux qui applaudissaient les crimes nazis et saluaient le bras en l'air ont très vite récupéré leur poste comme si de rien n'était.
Ida et Walter Nodak, par exemple.
Après qu'elle a essayé de s'attribuer la découverte de la fission. Ridicule.
Absolument. Son article de 34 était vide. L'intuition, c'est important, mais sans expérience ni calcul, ça ne vaut pas grand-chose.
Pourquoi avez-vous accepté d'aider ces types-là? Je ne comprends pas.
Parce qu'il faut pardonner.
Je crois bien que le pardon est une chose que je n'ai jamais comprise. Non, ça me rend fou de rage que vous acceptiez d'aider des types qui se sont rendus complices d'un massacre.
Il faut pouvoir tout pardonner.
Non, non, on ne peut pas tout pardonner. Les crimes nazis sont impardonnables, imprescriptibles.
Tu te trompes. Qui sommes-nous pour décider de ce qui est pardonnable ?
Qui nous sommes ? Nous sommes ceux qui ont vu leur famille entière disparaître en fumée après d'indescriptibles tortures. Cette souffrance-là ne s'en ira jamais. Il faut être fou pour pardonner.
C'est justement parce que la souffrance est encore vive qu'il faut pardonner.
Excusez-moi, mais il faut avoir perdu la raison pour pardonner à ces bourreaux quand la douleur est là, quand on sait qu'elle ne s'atténuera jamais.
Il n'y a de pardon que parce que la douleur est encore là. Cela n'aurait aucun sens sinon.
Mais... enfin, comment pouvez-vous oublier, vous ? Comment ?
Il ne s'agit pas d'oublier.
Oublier, c'est infliger une deuxième mort à ceux qui ont été assassinés.
Mais le pardon n'existe que parce qu'on n'oublie pas. Pardonner d'une certaine façon, c'est aussi reconnaître la faute.
Il y a des fautes qui excluent de l'humanité ceux qui les commettent.
Je ne pourrais pas continuer à vivre si je ne leur pardonne pas. Ou alors je deviendrai folle.
Je voudrais au moins les entendre implorer ce pardon dont vous les gratifiez gratuitement pour le salut de leurs âmes meurtrières.
Non, pas pour le salut de leurs âmes. Pour la paix de la mienne. Et puis oui, certains demandent pardon.
Ah oui, lesquels ? Votre ami Otto, Van Loué, Gerlach ?
Je ne sais pas.
Aucun d'entre eux, aucun. Moi, je pardonne pas. Je demande réparation des crimes commis par la justice des hommes. Si elle ne peut pas s'exercer, alors qui sait vers quelle nouvelle tragédie se dirige l'humanité ?
Comment pourrais-je vivre à nouveau parmi eux si je ne leur pardonne pas ?
Qui vous oblige à vivre parmi
eux ? J'aimais l'Allemagne passionnément, tu sais.
Je sais bien.
J'étais si heureuse à Berlin. Je n'ai rien vu venir.
Personne ne pouvait imaginer cette barbarie. Au fond, nous vivons dans un monde où les hommes s'entretuent et les femmes pardonnent. Tout. Absolument tout.
J'ai pas le choix.
Sans aucun doute, vous n'avez pas le choix. Chacun est assigné à son rôle. Vous pardonnez à votre ami Otto, vous leur pardonnez à tous, parce que c'est ce qu'on attend d'une femme.
J'ai essayé, crois-moi. Je voulais effacer toutes les différences. Je voulais être comme eux, avec eux. J'ai travaillé comme un homme, je suis devenue protestante. Ça n'a pas suffi, c'est pour ça que je... Oh, c'est absurde.
Ne disiez-vous pas tout à l'heure qu'on ne peut pas réécrire le passé ?
Oui.
Tante Lise, croyez-vous vraiment que vous pourriez retourner vivre à Berlin sereinement ?
Non, sans doute pas. Non. Il y aurait tous ces fantômes. Rien ne sera plus jamais pareil.
C'est bientôt l'heure. Allons écouter ce que Hanna a à dire au roi et à la reine de Suède.
Allons-y. Tu sais, je suis vraiment heureuse pour Hanna. Malgré tout, c'est mon ami.
Je sais.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Merci pour ce cadeau. Imer Kutlovsky et Elisabeth Bouchot, vous venez de nous lire une scène magnifique de votre pièce, Elisabeth Bouchot, Exil intérieur, sur la physicienne Lise Meitner. Et maintenant, j'interroge non plus la comédienne qui interprète, mais l'autrice de la pièce, Elisabeth Bouchot. Vous avez voulu cette scène pour que dans la bouche du neveu sorte quelque chose que vous pensez, c'est-à-dire ça suffit, le pardon et les femmes.
Oui, absolument. Et elle dit... Je n'ai pas le choix, en fait. Je n'ai pas le choix parce que, à l'époque, je veux croire que ça s'est amélioré, une femme qui se plaignait de son sort, c'était une râleuse, une hystérique. J'ai quelques collègues qui, quand ils ont vu l'affaire Rosaline Franklin, parce que Rosaline Franklin s'est plus battue pour garder ses résultats que les autres physiciennes dont je parle, eh bien, m'ont dit, mais c'est, elle est pas du tout sympathique, c'est un personnage très antipathique, c'est une marâtre, on m'a dit. Donc, à l'époque, on n'avait pas le choix. Donc, effectivement, et la réaction des trois femmes dont il s'agit aujourd'hui a été de dire, bah, c'est pas très grave, je tourne la page et je pardonne à tout le monde.
Dans l'affaire Rosaline Franklin, ce que vous racontez, qui est donc une histoire vraie, c'est que les scientifiques Maurice Wilkins, Francis Crick et James Watson ont volé sa recherche en chimie, elle qui avait découvert la structure en double hélice de l'ADN. Elle va mourir à 38 ans, en 1958, d'une surexposition aux rayons X, et 4 ans plus tard, les trois autres reçoivent le prix Nobel de médecine, 1962. Là aussi, il y a une tirade d'un de ses amis dans la pièce qui évoque presque quelque chose de sacrificiel. C'est terrible, cette femme s'est battue, elle est morte de sa recherche, qui était toute sa vie. Elle aussi, vous croyez que... Peut-être est-elle la seule en vérité à ne pas avoir pardonné, de toutes celles que vous évoquez.
Elle n'a pas pardonné, mais le collègue dont vous parlez, Vittorio Luzzatti, dit aussi, peut-être a-t-elle su qu'on lui avait volé ses résultats, peut-être ne l'a-t-elle jamais su, mais si elle l'a su, peut-être que ça lui était égal. De toute façon, ce qu'elle a fait, cette femme, c'est de tourner la page. Elle est allée, donc on est en 1953, travailler à Birkbeck College sur la structure des virus et comment ils affectent les cellules. Et je trouve ça incroyable. Et elle aurait eu probablement un prix Nobel avec Aaron Krug, qui a eu le prix Nobel pour ses recherches communes sur les virus quelques années plus tard. Et donc, elle a beaucoup plus avancé que ses collègues masculins. L'ADN, c'était vraiment un peu plus de deux années de sa vie.
Oui.
Et sur sa tombe, son épitaphe ne dit rien de l'ADN. Il dit ce qu'elle a fait sur les virus est un bienfait pour l'humanité.
Je trouve que vos trois pièces interrogent quand même beaucoup l'Académie du Nobel. Alors on va passer au troisième cas que vous évoquez dans cette pièce que précisément vous avez appelée Prix Nobel à propos de Jocelyn Bell, née en 1943. Elle est toujours vivante, Jocelyn Bell.
Oui.
Et elle est diplômée en sciences de l'Université de Glasgow. Elle fait des recherches à Cambridge en radioastronomie. Elle est en thèse sous la direction d'Anthony Huish. Elle a mis au point un radiotélescope pour étudier les sources d'ondes hertziennes. Alors, ça, j'y connais rien du tout. Ça s'appelle les quasars. Vous pourrez, si c'est nécessaire, nous expliquer. Et en fait, en 1967, elle repère une source lumineuse singulière. Son directeur de thèse n'y croit pas. Et quand il sera convaincu, il la mettra de côté. Il publiera sur cette nouvelle source lumineuse appelée un pulsar. Il obtiendra tout seul le prix Nobel de physique en 1974. Je vous écoute.
Oui, alors dans ce cas-là, il ne s'agit pas de vol, parce qu'il n'a pas volé les résultats de son étudiante, il y était associé parce que le système veut ça. Le directeur de thèse est associé aux résultats de son étudiante. Je trouve que ce qui est intéressant dans la découverte des pulsars, c'est que effectivement, elle cherchait autre chose. Et beaucoup de gens auraient sans doute, se seraient dit, ce petit signal bizarroïde et mal défini que j'observe à côté de celui que je cherche, je vais l'ignorer. Et elle ne l'a pas ignoré. C'est vraiment...
Comme une grande scientifique.
Comme une grande scientifique. Elle ne pouvait pas passer à côté. Elle n'a pas mis ça sous le boisseau. Anthony Huish a écrit un article où le nom de Jocelyn vient, mais en deuxième position.
Mm-hmm.
Et puis, il y a le nom de deux autres personnes qui ont prêté leur télescope pour vérifier que ça n'était pas un artefact dû au télescope qu'ils utilisaient. À partir de là, toute la gloire est revenue... Mais malgré lui, presque, à Anthony Huish.
Et le Nobel à lui seul.
Et d'une part, pour faire le lien avec ce qui précède, la première réaction de Jocelyn Bell a été « Je suis très heureuse que le comité Nobel reconnaisse enfin l'astrophysique. »
Pas d'amertume. Encore du pardon.
Voilà.
C'est intéressant parce que je vois bien que ça vous tourmente.
Oui.
Cette question du pardon hante vos trois pièces, là.
Oui.
Je voudrais quand même demander au comédien, merci de nous avoir lu ça, Imer Kutlovsky tout à l'heure. Vous connaissez bien Elisabeth Bouchot, vous connaissez les enjeux pour elle, ça compte dans votre manière d'interpréter un homme, forcément, enfin en tout cas c'est comme ça que ça marche dans ces trois pièces.
Oui.
Un homme ami, son neveu, dans le cas de Lise Meitner, vous interprétez d'autres rôles dans les autres pièces?
Je pense que dans les prochaines, mais en fait, oui, on se connaissait déjà parce que j'avais mis en scène déjà une pièce avant. À la Reine Blanche, et quand elle m'a envoyé le texte, en fait, ce qui est drôle, c'est que c'était justement, moi, je savais pas qu'elle va me proposer, et je lui ai dit que cette scène-là, elle est géniale.
Celle qu'on a lue là sur le pardon.
Sur le pardon, parce que ce que vous venez de dire là, c'est, en fait, désolé de dire ça, mais heureusement pour nous qu'il y a eu théâtre, pour le théâtre, c'est génial.
Ah, mais c'est
génial. Le pardon.
Cette pièce est géniale et les autres aussi.
C'est ces confrontations qu'il y a. Théâtre allemand, ouais. Ils sont bien. Malheureusement pour ce qui s'est passé pour eux. Mais c'est ça qui était intéressant. Ouais. Et c'est quand elle m'a proposé le texte, j'étais tellement content parce que c'est quand même quelque chose d'extraordinaire de défendre ces points de vue-là. Je trouve que c'est très important aujourd'hui.
Marie-Frédérique Pellegrin, vous êtes maintenant professeure d'université en philosophie. En philosophie, il n'y a pas de prix Nobel. Mais il y a des directeurs de thèse et des doctorants et doctorantes. Et cette question n'est pas tout à fait étrangère à cette discipline parce qu'elle existe dans toutes les disciplines. Il existe un risque qu'un directeur de thèse à l'ancienne viennent un peu se servir dans les travaux de ces doctorants. Et si ce sont des femmes, peut-être est-ce plus facile, je ne sais pas. Il vous est arrivé de réfléchir à ces problèmes. Dans plein de facs, il y a eu des histoires. Hein. Les directions le savent très bien. La doctorante est peut-être un personnage particulièrement fragile.
Oui, la doctorante est fragile, absolument. Et on n'en est pas encore sorti, malgré vraiment des nouveaux dispositifs de contrôle, de comités de suivi de thèse, etc. Ça s'est amélioré un petit peu de ce point de vue-là. Mais évidemment, dans tout rapport d'autorité, le rapport, par définition, n'est pas égalitaire. Et se plaindre de son directeur ou de sa directrice, c'est évidemment très compliqué pour une doctorante. Donc effectivement, je pense que les choses s'améliorent sur ce plan-là, très concrètement, mais ça reste quand même quelque chose de lourd et une certaine impunité tout de même règne encore hein, dans ce domaine.
Alors je voudrais aussi me tourner vers vous, Pauline Martineau, parce que dans une des scènes, et cette fois-ci je parle de la pièce d'Elisabeth Bouchot qui concerne Jocelyne Bell, cette doctorante, c'est même la première scène, celle-ci dit à une amie... J'ai peur de pas être assez légitime en sciences. Je dois travailler, week-end compris. D'ailleurs, son ami lui dit mais enfin, si t'étais pas légitime, il serait complètement débile de t'avoir choisi. Enfin, cette espèce d'auto-dénigrement féminin, parfois appelé syndrome de l'imposteur, et parfois aussi appelé l'effet Mathilda. Vous connaissez cela, vous, comme chercheuse sur les femmes. Ça commence tôt dans la vie de femmes qui font des études.
Alors moi, ça m'est arrivé à titre personnel, très tôt, et puis auprès de collègues aussi, en discutant beaucoup. Et collègues, ça dépasse les frontières, parce que j'ai fait de la recherche au Canada, aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, en Espagne. On retrouve tous ces patterns-là. Alors moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'avais deux directeurs de doctorat qui étaient absolument remarquables et qui n'ont jamais fait de différence, qui au contraire m'ont poussé à avoir une ambition très très forte pour la qualité des travaux qu'on faisait. Ils n'ont jamais parlé de différence garçon-fille. Par contre, ce sont d'autres chercheurs qui se sont appropriés mon travail dans d'autres contextes, poussés par des femmes. C'est des femmes qui m'ont appelé pour me dire bah, « on va mettre telle personne en co-premier auteur de tes travaux ». Parce qu'il nous faut tel expert dans tel domaine. Et donc, en fait, c'était plutôt l'environnement qui accepte et personne qui protégeait. Et moi, ça m'est arrivé, mais ça est arrivé aussi à d'autres personnes, ou des gens qui se servent de nos résultats et qui ne nous valorisent pas du tout. Et on l'apprend après dans la presse, etc.
Vous avez pardonné, vous ?
Je pense que c'est, en discutant avec d'autres chercheurs, une grande générosité. En se disant, il faut que le savoir soit le plus connu, le plus possible, et s'il est porté par d'autres personnes, alors tant mieux. Et moi, c'est vrai que pour avancer, pour tenir et pour rester en recherche dans les sciences, je me suis toujours dit, si l'idée qu'on me pique est piquée, alors ça veut dire que c'était une très bonne idée et je m'en félicite. Enfin, du coup, je suis fière de moi.
Bravo, et en tout cas, je voudrais juste dire aux auditeurs que l'effet Mathilda, ça a été formalisé par l'historienne des sciences Margaret Rossiter à partir d'une expression, enfin à partir de la référence à une suffragette qui s'appelait Mathilda Jocelyn Gage.
What a beautiful, beautiful baby, said the face looking down from the sky. The neighbor joined in and tickled my chin. What a beautiful baby was I. Growing up, I made sure of attention. Everyone's eyes were on me. And into my teens, I was never not seen. The whole world revolved around me, me, me. I was here for the birth of my children. I was here, the belle of the ball. 80 years have gone by in the blink of an eye. Now it seems that I'm not here at all. Here comes the invisible woman. She's been on the planet for years. You can't make her out, but there's never a doubt. The invisible woman is here.
The Invisible Woman, la femme invisible, C'est chanté par la chanteuse de folk américaine Peggy Seeger et ça fait référence au fait que les femmes sont visibles, reconnues dans leur jeunesse, dans leur beauté, dans leurs moments de maternité, mais que la vieillesse est terrible pour toutes. C'est une très belle chanson, qui fait beaucoup réfléchir. Merci beaucoup à toutes les trois, ainsi qu'au comédien qui nous a rejoint pour cette réflexion sur les femmes et la science, Elisabeth Bouchot, Pauline Martineau, Marie-Frédérique Pellegrin et Ymer Kutlovsi. Je vous propose maintenant d'écouter la chronique de Frédéric Worms cette semaine. Il s'intéresse à l'accord et au désaccord. Voici le pourquoi du comment.
Pourquoi certains désaccords sont-ils des déchirements ? Les conflits entre les humains passent toujours par des oppositions aussi de pensée, des oppositions de parole, ce qu'on appelle des polémiques, des controverses, des désaccords. Or, il importe de dresser la carte, l'éventail de tous ces désaccords, de comprendre toute leur portée, toute leur diversité. C'est absolument fondamental puisqu'il y a des désaccords qui peuvent justement reconduire, répéter la guerre, des désaccords en quelque sorte irrémédiables entre des gens tout à fait extérieurs. Si quelqu'un vous agresse de l'extérieur, vous n'allez en effet pas être d'accord avec lui et les négociations de paix vont se faire finalement entre ce qu'on appelle des ennemis. C'est seulement avec son ennemi qu'on peut faire la paix, comme on le dit souvent, avec profondeur. Mais il faut d'abord avoir justement reconnu l'extériorité radicale entre les deux. À l'autre extrême, ce que j'appelle pour ma part la violation représente justement la rupture radicale dans une relation intime. Oui, tout à coup, avec quelqu'un dont vous étiez le plus proche, quelqu'un avec qui vous pensiez l'accord profond, la bienveillance fondamentale, garantie à tous les coups, tout à coup une rupture violente apparaît de l'intérieur, un désaccord si profond qu'il rend la relation totalement impossible et fait ressentir comme une trahison. On a cela dans toutes les grandes tragédies, par exemple au début d'Antigone, où elle est en désaccord non seulement avec Créon, qui refuse d'enterrer ses deux frères qui viennent de s'entretuer, alors que leur mort devrait au moins sceller leur paix et le retour à l'amour filial, parental et divin, dit-elle aussi, mais elle est en désaccord aussi, Antigone, au début de la tragédie de Sophocle, avec sa propre sœur, Ismène, qui ne ressent pas la même indignation, qui n'est pas prête à se battre pour enterrer le frère que le tyran leur refuse d'ensevelir. Et par exemple aussi, au début de toutes les tragédies, il y a un désaccord au début d'Hamlet et même au début de cette comédie tragique qu'est le Misanthrope de Molière. Alceste se fâche avec Philinte qui ne veut pas partager son indignation devant l'hypocrisie mondaine, devant des poèmes massacrés par des faux poètes de cour. Ainsi, le désaccord ici prend une forme extrême, une rupture violente, une rupture de l'intérieur et peut-être parfois définitive. Mais entre les deux, et il importe de dresser ce spectre, entre la guerre extérieure et finalement la guerre intime et civile, il y a heureusement tous les degrés. Il y a des désaccords qui peuvent être des déchirements parce qu'ils peuvent intervenir entre des amis. Il y a eu beaucoup de polémiques philosophiques de ce genre, entre Sartre et Camus, entre Sartre et Merleau-Ponty, entre Deleuze et Foucault, entre certains autres, entre Foucault et Derrida, entre peut-être à tous les grands moments, comme on pourrait dire, de l'histoire de la philosophie, mais qui ont quand même préservé leurs relations dans certains cas. Et surtout, quand on est en accord sur le fond, on peut être en désaccord sur la forme, on peut se disputer parce que on ne ressent pas le respect de la parole de tout le monde, mais on est quand même en accord sur le fond. L'amitié alors est préservée. Le désaccord est un déchirement justement en raison des liens et de l'amitié, mais il doit être dépassé. On n'est pas toujours pris dans l'alternative entre la guerre et la violation. Entre les deux, il y a toujours des marges pour le désaccord qui permettra de rétablir l'accord. Il y a un déchirement singulier, une vibration intime qui ne fait que rendre plus précieuse encore l'amitié et l'amour.
Merci Frédéric Worms. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast via l'application Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger avec à la technique Noé Chaban. Elle a été préparée en particulier par Armance Bourquin et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Antoine Ravon, Anna Feulpin, Chaï Magiboire, Carla Michel et Nassim El-Kabli. Vous êtes sur France Culture, vive la curiosité!